La chose qui a donné le plus de valeur et le plus d'honneur à la femme musulmane, c'est quoi? C'est le hijab al-shar'i. Si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab, ce n'est que pour préserver notre sœur. Ce n'est que pour protéger notre sœur, ainsi que notre mère, ainsi que notre fille. Et tout le monde sait qu'on ne protège et on ne préserve que ce qui a de la valeur. Et pourquoi pas? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Coran:
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihim ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
L'islam est venu pour redonner la place qu'elle mérite et la femme a sa place dans la société. Et la femme qui se montre, ou plutôt qui dévoile ses atouts devant tout le monde, elle sert à quoi cette femme-là, si ce n'est qu'à étancher la soif des pervers? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit?
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
Si respecter une femme, c'est le fait de dévoiler les atouts, de dévoiler la nudité, tout simplement sous prétexte qu'on veut vendre un pneu de voiture, ou bien un shampoing, ou je ne sais quoi encore, dans des arrêts de bus, si ça pour vous, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est le respect de la femme et c'est la pudeur de la femme, on n'a pas la même vision des choses concernant la pudeur. La femme musulmane, ayyuhal ikhwatul kiram, elle n'est pas prise pour objet.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى le sujet de la conférence de ce soir est الحجاب الشرعي le voile légiféré. Avant tout, ayyuhal ikhwatul kiram, faut savoir que le terme hijab est un terme plus général que les termes qu'on emploie comme niqab ou bien as-sitar ou bien jilbab. Le terme hijab est un terme plus général que les termes qu'on emploie comme as-sitar ou bien al-jilbab ou bien al-niqab. On dira que, comme disent les savants, ayyuhal ikhwatul kiram, que les termes qu'on emploie comme le terme as-sitar ou le jilbab ou bien al-niqab sont ici des types de hijab. Ce sont des types de hijab. C'est pour ça qu'on dit de façon générale, ou un terme qui est plus général, c'est le hijab. Le hijab est un terme plus général. Naam, c'est la première des choses qu'il faut savoir ici avant d'entamer cette conférence. Et on va pas parler ce soir du hijab 2010 ou 2012 ou 2020 ou le hijab de nos parents ou le hijab de nos grands-parents ou le hijab de nos arrière-grands-parents, mais on parlera tout simplement du hijab al-shar'i, le hijab légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. C'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses, ayyuhal ikhwatul kiram, il faut savoir que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, surtout au jour d'aujourd'hui. Le hijab, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, au jour d'aujourd'hui, on parle même d'une loi qui va peut-être être mise en place concernant la femme qui couvre ou qui cache son visage. Peut-être une loi va être établie. Je rappelle ici, dans cette soirée-là, que le sujet de ce soir, ce n'est pas de savoir comment réagir face à une éventuelle ou à des lois ici qui interdisent le port du voile à l'école, ou bien le port du hijab, ou bien le fait de se couvrir le visage dans des lieux publics ou autre chose. Ce n'est pas du tout le but de cette conférence ce soir. Ça, c'est un autre sujet. Et on n'est pas du tout là pour s'opposer aux lois aussi. Je ne suis pas là pour pousser les gens à s'opposer aux lois, pas du tout. Simplement, le but de cette conférence, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est d'éclaircir le sujet. C'est d'éclaircir ce sujet, car c'est un sujet ici qui a apporté beaucoup, beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de divergences concernant ce sujet qui est le hijab. Ici, une grande divergence entre de grands savants. Ce n'est pas n'importe quel savant, entre de grands savants. C'est pour ça que le but de cette conférence est d'éclaircir ce sujet-là concernant le hijab al-shar'i. Qu'est-ce que c'est que vraiment le hijab al-shar'i? Pourquoi la femme doit porter le hijab al-shar'i, est-ce que ce hijab a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ou c'est simplement une sorte d'innovation, comme le prétendent certaines personnes au jour d'aujourd'hui? Donc, est-ce que la femme est contrainte ou doit être forcée de porter ce hijab? Tous ces points, on va le voir, incha'Allah ta'ala, au fur et à mesure de cette conférence. Je rappelle aussi, pendant qu'on est ici dans cette introduction, que ce que rapportent ici les médias concernant le fait que la femme est forcée à porter le hijab, que la femme est forcée à porter le hijab, ou bien qu'il y ait des femmes ou beaucoup de femmes qui se font frapper pour qu'elles portent le hijab, nous disons ou c'est des mensonges, ou bien ça n'a rien à voir avec l'islam, ou bien ça n'a rien à voir avec l'islam. Car on rappelle ici aux musulmans et aux non-musulmans que les actes d'adoration sont fondés sur an-niyyatus saliha, l'intention sincère. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ici le prophète alayhi salatu wassalam rappelle dans un hadith sahih que les actions ne valent que par leur intention, et chacun sera rétribué selon son intention, et que tout acte d'adoration en islam qui n'a pas été accompli en vue de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala est rejeté. Donc le fait de dire que la femme est forcée, ou qu'il y a certains hommes qui forcent leur épouse ou leur sœur ou leur fille de porter le hijab, ou bien c'est des mensonges, ou si c'est une réalité, nous disons que ceci n'a rien à voir et nous condamnons fermement ces comportements, car ces comportements n'ont rien à voir avec l'islam. Comme on a entendu ici à travers les médias, si c'est vrai ou pas, Allahu a'lam. Ala kulli hal, si c'est vrai, on condamne fermement. Le fait qu'il y aurait des hommes qui auront été même jusqu'à frapper des médecins parce qu'ils ne voulaient pas que leur femme se fasse opérer par des hommes, surtout dans des cas de nécessité. Nous disons que ceci n'a rien à voir avec l'islam, et qu'il y a une règle en islam qui dit ad-darurat tubih al-mahdhurat, les interdits, ou plutôt les nécessités rendent permises les interdits. Que s'il y a une nécessité, la femme a le droit de se dévoiler devant un homme qui lui est étranger, s'il y a une nécessité. Donc le fait qu'il y ait, entre guillemets, soi-disant, ou peut-être que c'est vrai, des hommes qui ont été jusqu'à frapper même des médecins, ou s'opposer au fait que la femme se fasse opérer par un homme en cas de nécessité, nous condamnons fermement et nous disons et nous rappelons que ceci n'a rien à voir avec l'islam. Et il faut savoir, ayyuhal ikhwatul kiram, et mes chers frères et mes chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que ce qui est bon et n'interdit que ce qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ordonne une chose à ses serviteurs, aux croyants, aux croyantes, aux gens, c'est que c'est un bien pour eux. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, c'est que c'est un mal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que n'importe qui ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. À titre d'exemple, et ça c'est un message même pour les non-musulmans, à titre d'exemple, pour prouver ici de façon claire, concrète, brève, simple, les propos que je viens de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit quoi dans la religion de l'islam? Et dites-moi, s'il y a même un non-musulman, je ne parle pas des musulmans, même un non-musulman qui dira que ces choses que je vais citer, qui ont été interdites par l'islam, sont des choses bonnes. La cigarette est interdite par l'islam. Même les non-musulmans vous diront que la cigarette est nocif et mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'alcool. Même les non-musulmans vous diront que l'alcool est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala interdit quoi? L'exhibition et la prostitution. Même les non-musulmans vous diront que la prostitution, c'est une cause des plus graves maladies telles que le sida. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le mensonge. Même les non-musulmans vous diront que le mensonge c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la médisance et la calomnie. Même les non-musulmans vous diront qu'ils sont contre la médisance et la calomnie. C'est pour ça que je vous disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a interdit que ce qui est bon pour nous, et que l'islam a interdit que ce qui est plutôt mauvais pour nous, et qu'Allah Azza wa Jal plutôt a interdit que ce qui est mauvais pour nous. Et de même, ou plutôt dans le cas inverse, Allah subhanahu wa ta'ala n'a autorisé ou n'a légiféré que ce qui est bon pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré quoi pour nous, ayyuhal ikhwatul kiram? Il nous a ordonné de préserver notre chasteté. Il nous a ordonné, ayyuhal ikhwatul kiram, de ne dire que la vérité et de ne pas mentir. Il nous a ordonné de nous comporter bien avec nos parents. Il nous a ordonné de nous comporter bien avec les voisins, même si ceux-ci sont non-musulmans. Quel non-musulman vous dira que les choses qui sont commandées, recommandées, ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala sont des choses mauvaises? Même les non-musulmans vous diront que c'est des choses bonnes. La preuve encore que Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que ce qui est bon et n'interdit que ce qui est mauvais, ayyuhal ikhwatul kiram. Ça, c'était un point que je voulais signaler avant de continuer. Et ici, il faut savoir que si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné al-hijab, le voile, a ordonné à notre sœur, à notre épouse, à notre fille, à notre mère, de se voiler par ce voile islamique légiféré. Ce voile islamique, et j'utiliserai le terme général, comme je vous avais dit au début de la conférence, le terme général qui est al-hijab. Al-hijab. Si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le hijab à notre sœur, à notre fille, à notre épouse, etc., ici il faut savoir que ce n'est que pour préserver notre sœur. Ce n'est que pour protéger notre sœur, ainsi que notre mère, ainsi que notre fille. Et vous savez tous et toutes qu'on ne préserve et qu'on ne protège que ce qui est, que ce qui a de la valeur. On ne préserve et on ne protège que ce qui a de la valeur. Le hijab a été légiféré. Le hijab, ayyuhal ikhwatul kiram, ayyatuhal akhawat, a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, et on va voir les preuves. A été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala à notre sœur, à notre sœur, à notre mère, à notre épouse, à notre fille, pour préserver, comme on va le voir, on va apporter les preuves de ce que je dis, pour les préserver, ayyuhal ikhwatul kiram. Et pour les protéger, et tout le monde le sait, et tout le monde sait qu'on ne protège et on ne préserve que ce qui a de la valeur. Et pourquoi pas, alors que Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Coran, et notre noble messager alayhi salatu wa salam rappelle dans de nombreux récits prophétiques authentiques que la femme a beaucoup de valeur et a beaucoup d'honneur et a sa place dans l'islam. Bien plus que cela, elle a marqué l'histoire, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et on va apporter les preuves, incha'Allah ta'ala, au fur et à mesure de cette conférence. Tout le monde le sait. Qu'avant l'islam, la femme était considérée comme un objet. Dans le jahiliya, avant l'islam, la femme n'avait aucune importance aux yeux des hommes. Avant l'islam, elle n'avait pas droit à l'héritage. Elle n'avait pas droit à l'héritage. Et l'islam a apporté ce droit-là, a donné le droit d'héritage à la femme, alors que les autres religions, même dans le christianisme et même dans le judaïsme, la femme n'avait pas le droit à l'héritage. L'islam est venu donner la place qu'elle méritait à cette femme-là, à notre sœur, à notre épouse, à notre mère, à notre fille, ayyuhal ikhwatul kiram. Alors que la femme, avant la venue de l'islam, ayyuhal ikhwatul kiram, était simplement l'objet ou un objet, ou considéré comme un objet, Ici, il faut savoir que la femme, wal'iyadu billah, était exhibée simplement pour étancher la soif des pervers. La femme était exhibée pour étancher la soif des pervers. À l'époque de l'Jahiliya, plusieurs hommes forniquaient avec la même femme. Les femmes s'exhibaient et se donnaient à n'importe quel homme. La femme était enterrée vivante, ou je dis plutôt ici, la fille était enterrée vivante avant la venue de l'islam. Quand les hommes avaient ici voyé que leur femme était au monde une fille, par dégoût de cet événement-là, le fait qu'ils voient que leur femme a mis au monde une fille, ils l'enterraient vivante. L'islam est venu pour réformer. L'islam est venu pour redonner la place qu'elle mérite. La place à la femme, ayyuhal ikhwatul kiram. Et la femme a sa place dans la société. Et la femme a de grands mérites dans l'islam. Et je vous disais précédemment que la femme était prise principalement à l'époque de l'Jahiliya comme un objet. Et elle servait à étancher la soif des pervers. Comme au jour d'aujourd'hui, ayyuhal ikhwatul kiram, concernant la femme qui s'exhibe et la femme qui se montre, ou plutôt qui dévoile ses atouts devant tout le monde. Elle sert à quoi, cette femme-là, ayyuhal ikhwatul kiram, si ce n'est qu'à étancher la soif des pervers? Après, on nous parle de pudeur et on nous dit que certaines personnes prétendent que eux, ils donnent la place que mérite la femme dans la société. Et que eux, ils savent c'est quoi le respect et la pudeur de la femme. Eh ben, dites-moi, si respecter une femme, et si ici montrer que la femme a de la pudeur, c'est le fait de dévoiler les atouts, de dévoiler la nudité d'une femme, tout simplement sous prétexte qu'on veut vendre un pneu de voiture, ou bien un shampoing, ou je ne sais quoi encore, de dévoiler cette femme et la nudité de cette femme dans des arrêts de bus, alors qu'il y a un enfant de 3 ou 4 ans qui passe avec sa mère et accompagné avec son père et qui voit cette femme dénudée. Si ça pour vous, ayyuhal ikhwatul kiram, si ça pour vous, ô vous non musulmans, c'est le respect de la femme et c'est la pudeur de la femme, eh ben nous disons, on n'a pas la même vision des choses concernant la pudeur. Et nous, la femme musulmane, ayyuhal ikhwatul kiram, elle n'est pas prise pour objet. Elle n'est pas prise pour objet. Pour objet, certains vont dire, mais ce n'est pas prendre pour objet une femme le fait que d'exposer une femme dénudée dans des arrêts de bus. Ce n'est pas ça, considérer une femme comme un objet. Eh ben, nous disons si. C'est considérer une femme comme un objet. Et je vais apporter les preuves. Avec des preuves simples, claires et brèves. Dites-moi, pourquoi cette femme-là, ici, on l'a pris en photo. Cette femme-là et pas une autre. Et ici, alors qu'elle est dénudée, pour vendre un pneu ou un shampoing ou je ne sais quoi encore. Pourquoi cette femme-là et pas une autre? Pourquoi? Car cette femme-là, ayyuhal ikhwatul kiram, on a exposé sa nudité que par intérêt. Car elle a des atouts et elle a une beauté que d'autres femmes n'ont pas. Et le jour où cette femme n'aura plus cette beauté ou n'aura plus ses atouts, eh ben, personne voudra d'elle et on l'exposera plus. La preuve que quoi? Elle est considérée comme un objet à partir du moment où il ne fonctionne plus, où il n'y a plus d'intérêt de l'utiliser, eh ben on le jette. Pareil pour cette femme-là, qui se dévoile et dévoile sa nudité, ayyuhal ikhwatul kiram wal a'yadu billah, qu'Allah nous en préserve, devant des enfants de 2 ans et de 3 ans, et après on nous parle et on nous donne des leçons de morale en nous disant que la femme qui est voilée choque les enfants. Masha'Allah. La femme qui est voilée, ça choque, ça fait peur aux enfants de 2 ans et de 3 ans. Et bien dans ces cas-là, si la femme qui est dénudée, ça ne choque pas les enfants, pourquoi que quand ici il y a des films, ici où il y aura des femmes, ou plutôt où on va montrer des femmes dénudées, on met cette petite mention, ou bien dans des sites internet, interdit moins de 12 ans. C'est pas moins de 12 ans. Normalement ça choque pas. Pourquoi vous mettez cette mention alors que quand on sort de chez nous, eh ben, n'importe quel enfant, même s'il a 2 ans, il peut voir cette femme dénudée. Bah, allez jusqu'au bout dans votre théorie. C'est une théorie erronée. Et avec leurs propres preuves. Dans ces cas-là, ne laissez pas les enfants voir ici des femmes dénudées dans des arrêts de bus. Tout simplement pour rappeler à ayyuhal ikhwatul kiram que les comportements qu'on voit chez les non-musulmans, c'est les comportements qu'avaient les gens dans le paganisme. Et que l'islam est venu pour réformer et donner à ayyuhal ikhwatul kiram à la femme la valeur. À la femme plutôt, sa valeur et la place qu'elle mérite. Voilà que l'islam, ayyuhal ikhwatul kiram, est venu pour réformer, comme je vous l'ai dit. Le problème, ayyuhal ikhwatul kiram, chez les musulmans principalement, c'est que quand on voit des débats même à la télé, et bon, vous connaissez un peu ici tous ce refrain-là, donc oui, mais la femme est opprimée, mais la femme ici est emprisonnée chez elle, mais la femme est battue, mais on force la femme ici à porter le voile islamique, et on voit des gens qui répondent avec quoi? Excusez-moi du terme, hein, ce n'est pas pour blesser les personnes qui répondent, et je ne doute en rien concernant leur intention. Je sais très bien qu'ils ont une bonne intention, ceux qui défendent ici la femme musulmane dans divers émissions. Lakin ala kulli hal, ce qui fait mal, c'est que beaucoup d'entre eux parlent avec quoi? Avec leurs propos à eux personnels. Où on a entendu ici un homme musulman, ici je parle dans notre cas en France du moins, hein, devant des journalistes à la télé et dire Allah a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit.